Je vous salue donc à nouveau en vous disant eh bien, que le Seigneur vous bénisse en cette année 2020, qu'il vous accorde des protections et qu'il réponde à vos prières et qu'il vous conduise par des chemins que vous ne connaissez pas. Je ne parle pas des chemins de la route, mais des chemins vers Dieu. Dieu est infini et il nous faudra certainement beaucoup de temps pour le connaître. Je vais vous dire un secret, il nous faudra toute l'éternité, mais on a le temps. Eh bien, nous allons ensemble nous lever pour prier. On va demander sa bénédiction, car une parole d'évangile, elle est toujours accompagnée par l'Esprit de Dieu, pour convaincre, pour nous montrer ce qui ne va pas, ce qui va, ce qu'il veut faire. Je prie avec vous. Seigneur, montre-toi dans nos vies, parce que nous avons besoin d'avoir une lumière à nos pieds. Nous avons besoin d'être consolés chaque jour de la vie. Montre-toi dans nos vies afin que nous connaissions le chemin qui mène vers toi et que nous n'allions pas dans des chemins qui mènent à la mort. Seigneur, nous n'avons que ce temps de vie pour choisir. Et aujourd'hui, nous voulons faire le choix de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, le titre, bien, il est bien clair pour aujourd'hui. L'épiphanie. Dieu se montre heureusement pour nous. Alors, peut-être une petite parenthèse pour vous dire que l'épiphanie, ce n'est pas une question de galette des rois. Ce qui n'est pas interdit quand même. Vous pouvez en manger, c'est autorisé. Mais l'épiphanie, ce n'était pas des rois, c'était des mages, des savants qui observaient les étoiles et la lune, etc., qui sont venus voir Jésus. Ils n'étaient pas trois, mais certainement toute une petite ribambelle, parce que ce n'est pas simple de déplacer ces gens depuis l'Orient. Et puis, ils ne sont pas venus dans la crèche, puisqu'ils sont... Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Donc, l'étoile avait commencé à briller depuis 2 ans. Donc, peut-être qu'ils n'étaient plus dans la crèche. Enfin, il y a beaucoup de mystères, quand même. Mais l'essentiel, c'est ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, nous ouvrons la Bible dans Matthieu, chapitre 2, verset 1er. On relit l'histoire que vous connaissez certainement. On la relit parce qu'elle nous intéresse malgré ses mystères, notamment le mystère de l'étoile. Comment se fait-il qu'une étoile s'arrête sur une maison? Une maison. Comment se fait-il que cette étoile eh bien, les a dirigés par des chemins mystérieux? On ne comprend pas tout, mais l'histoire est là, nous l'acceptons, nous l'accueillons. Matthieu 2, verset 1er, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes, les gens de la religion, du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Tout était hypocrisie et mensonge, évidemment. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, donc qu'ils n'avaient pas revue depuis, aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, parfum. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Que signifie en fait l'épiphanie? Ce mot grec qui est dans la Bible, pas à propos des mages, mais qui est dans la Bible, signifie apparition, manifestation. Je vous disais tout à l'heure, quand un roi arrivait dans une ville, on appelait ça une épiphanie, parce qu'il il arrivait. Voilà, épiphanie, c'est l'arrivée. Si Dieu ne se manifestait pas par une épiphanie, par une apparition, nous ne pourrions pas connaître Dieu. Que saurait-on de lui? On ne peut pas observer Dieu parmi les choses créées. Dieu est au-dessus, largement. Pour les anciens, il y a très longtemps et encore aujourd'hui, Dieu c'est plutôt tout ce qui se voit. L'orage, le dieu de l'orage, la pluie, le dieu de la pluie, la moisson, le dieu de la moisson. Et puis, pour les anciens, dans l'histoire des religions, il y avait par-dessus tous ces dieux, cette ribambelle de dieux, il y avait un dieu qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, mais qui était le dieu des dieux, un dieu inconnu. Oui, inconnu, personne n'a jamais vu Dieu. Je vous dis tout de suite la fin de l'histoire. Le Fils unique, Jésus, est celui qui nous l'a fait connaître. Alors, comment le connaître? Comment ont-ils pu connaître Dieu, ce Dieu caché? Est-ce qu'il nous parle? Est-ce qu'il est contre nous, pour nous, amis, ennemis? On a comparé Dieu à un veau, un bœuf, un serpent, un oiseau. On a comparé Dieu à de la pierre. Et Dieu dit dans le prophète Ésaïe, « À qui me comparerez-vous? J'ai tout créé, j'ai tout fait. Je suis au-dessus de tout ce que vous imaginez. » Enfin, je reviens à ma question. Si Dieu ne parle pas, nous ne pouvons pas le connaître. Parce que notre imagination ne peut pas comprendre, savoir ce qu'il représente. Et nous ne comprenons pas le sens de la vie. Parce que le sens de la vie, c'est Dieu. Et nous ne comprenons pas l'après-vie. Nous ne comprenons rien du tout si Dieu ne fait pas un pas, si Dieu ne joue pas le premier, si Dieu ne dit pas « Coucou, me voici ». On ne comprend rien. On ne peut pas imaginer Dieu. La Bible dit que les choses de Dieu ne sont pas montées naturellement dans notre cœur. Ce n'est pas instinctif. On a des instincts, l'animal a des instincts. Il sait où est sa mère, la nourriture, quand il faut se coucher. Mais avec Dieu, on n'a pas d'instinct. On n'a pas naturellement quelque chose au fond de nous qui nous dise « Attention, c'est lui !» On n'a rien. C'est terrible. Comment imaginer? Les mages, ces savants qui observaient la marche des étoiles, qui n'étaient pas des astrologues, bien qu'ils observaient des signes dans le ciel, oui. La preuve, c'est qu'ils ont vu une étoile qui a bougé vers la Judée, et ils ont dit « un roi est né, donc un grand roi est né ». Mais ces mages, quand ils ont vu cette étoile, ils n'ont pas dit « Dieu est une étoile ». Mais ils ont dit, nous avons vu son étoile. Donc ça veut dire que ce roi qui est né, ce roi Dieu, ce Dieu roi, il a son étoile, mais il est plus qu'une étoile. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Si Dieu ne se montre pas, si Dieu ne fait pas pour nous une épiphanie, c'est moi toujours ? Comment c'est terrible ? Si Dieu ne se montre pas, nous allons avoir chacun notre Dieu domestique, notre petit Dieu familial, notre petit Dieu de notre chambre à coucher, de notre cuisine. Et nous finirons par être soi-même Dieu. Vous serez comme des dieux, avait dit le serpent à Adam et Ève. Nous finirons par être Dieu et nous nous croirons suffisants, hautement au-dessus de tout le reste. Mais ce Dieu qui se cache, comme dit le prophète, Dieu qui se cache à Israël, il s'est montré. Je ne sais pas comment faire. Il s'est montré. C'est ce qu'on appelle une épiphanie. Voyez-vous, parfois ça peut...
Là ?
Oh là là. Quand Dieu se montre, c'était pire que ça. Vous m'entendez bien ? Parfait ou plus que parfait ? Ça va ? Première épiphanie de Dieu, première apparition de Dieu dans le jardin d'Éden, après la création de Adam et Ève qui ont commis la première bêtise, ils ont désobéi à Dieu. Et sur le soir, Dieu parcourait le jardin, il se promenait dans son jardin, la voix de Dieu parcourait le jardin. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu ? Où es-tu ? Ça veut dire, Dieu se montre pour rencontrer Adam. Il ne se montre pas pour le détruire, mais pour le rencontrer, pour lui parler. Dieu veut nous rencontrer. Il veut avoir avec nous un dialogue. La première grande apparition de Dieu, la première grande épiphanie de Dieu, je pense que c'est Abraham. Cet homme qui vient justement du pays des mages, de l'Irak, qui ne va pas bien aujourd'hui. Cet homme qui n'a pas inventé Dieu, c'était un homme idolâtre. Ses parents adoraient le soleil, la lune, les fleuves. C'était un peuple qui ne connaissait pas et Abraham n'a pas pu inventer tout ça. Mais un jour, il a eu une apparition de Dieu. Le Dieu de gloire, dit la Bible, lui est apparu en Mésopotamie. C'était un homme tout simple, un peu âgé, qui était habitué à ses petits dieux, et tout à coup, le Dieu de gloire lui est apparu et lui a parlé. Un langage qu'il comprenait. Donc Dieu parle nos mots, et avec, il parle de nos mots aussi, M-A-U-X. Et Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies grâce à toi. Alors, c'est un Dieu qui parle de prospérité, c'est pas un Dieu qui est catastrophique, c'est un Dieu qui rassure, c'est un Dieu qui entre en dialogue et qui veut nous emmener plus loin. Va vers le pays que je te montrerai. Un Dieu qui veut nous conduire autre part. Je sais où il veut nous conduire. Il veut nous conduire chez lui, par petits morceaux. Un Dieu donc sauveur. Il n'est pas venu avec le déluge, il est venu pour dire « je vais faire de tes enfants, mais je n'ai pas d'enfants Seigneur. Tu vas avoir un enfant et il y aura beaucoup d'enfants et je vais les bénir et les protéger. » Donc c'est impossible que ce Dieu-là
se cache et ne nous parle jamais. C'est impossible qu'il reste caché dans son inconnu, alors que la nature, elle parle de ses perfections. Et lui, le Dieu parfait, il ne nous dirait pas un mot. Il resterait dans sa chambre et nous dans la nôtre. Dieu veut rentrer en relation avec nous. Il veut nous reprendre, il veut nous montrer le chemin à suivre. Alors, Dieu veut entrer en conversation avec nous, et pour moi, le plus bel exemple, c'est Moïse. Quand Moïse était en fuite dans le mont Sinaï, un jour, Dieu lui est apparu, apparition, épiphanie, Dieu lui est apparu dans un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il apparaît dans un buisson d'épines en feu, peut-être pour nous dire et dire à Moïse, je suis dans les situations les plus douloureuses, que c'est pas facile le buisson d'épines. Je suis avec mon peuple d'Israël qui est esclave en Égypte, dans une situation difficile de mort, je suis avec lui, je suis dans le buisson d'épines, je suis avec ton cœur Moïse, je suis avec vous, nous dirait-il aujourd'hui, quelles que soient vos situations familiales. C'est un Dieu douloureux qui voit la souffrance et qui souffre. Ce qui est étonnant dans cette histoire de Moïse, c'est que Dieu n'a pas tellement parlé de lui. Il n'a pas dit, voilà, je mesure tel tant de mètres, je fais telle chose, j'ai tel diplôme, j'habite là-bas. Il ne parle pas de lui, il parle de nous. Et il dit, pour commencer à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. Autrement dit, Dieu, d'abord, il parle de nos souffrances. Il parle de nos morts, de nos difficultés. C'est un Dieu douloureux, comme je l'appelle. Je ne vis pas la même histoire. Je ne suis pas esclave en Égypte. Je ne vis pas dans les boues de l'Égypte à faire des briques pour faire les grandes maisons de Pharaon. Et pourtant, quand je lis cette histoire, elle me parle. J'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris, je suis descendu pour te délivrer et délivrer tes enfants. Ça, c'est un message clair que tout le monde comprend. Donc, l'histoire des épiphanies de la Bible sont des histoires qui nous rejoignent, croise notre actualité d'hommes, de femmes, de jeunes d'aujourd'hui. J'ai vu, j'ai entendu ta souffrance. Alors Dieu, dans ses quelques apparitions, est sorti de lui-même. Et ça, c'est important pour nous. Il est sorti de lui-même, il a fait entendre une parole, il a lancé un message, il a tendu ses mains, il s'est montré sans nous écraser. Sans nous effrayer, il s'est montré à l'homme poussière. Il a même permis qu'un jour une femme touche son vêtement pour être guérie. Donc c'est un Dieu de proximité, un Dieu qui écoute pas seulement ce qui crie, mais il écoute aussi le cri intérieur du cœur, le cri caché. La sortie d'Égypte avec Moïse est une épiphanie. Là, Dieu s'est montré même dans les profondeurs de la mer Rouge, dit le psaume 78, dans la profondeur, Dieu était là présent. Il a tracé un chemin au fond de la mer et ensuite le chemin s'est refermé et on n'a jamais revu de traces de lui. Mais il était présent dans les profondeurs. Mais l'histoire reste actuelle. Aujourd'hui, dans les moments de dépression que nous pouvons connaître, les moments de profondeur où on ne sait plus comment remonter, comment émerger, comment sortir de notre difficulté. Le Seigneur est là et il nous attend et il nous trace un chemin. Et ce grand souffle de l'Exode, la formidable histoire d'un peuple en Égypte, d'un peuple qui sort d'Égypte, qui traverse le désert, qui va dans une terre nouvelle, cette histoire, c'est un souffle de libération, un souffle de salut. Cette histoire, elle nous est transmise et les mots nous enflamment, nous encouragent. C'est une histoire de salut Dieu relève un peuple de la détresse. Il peut le faire pour chacun de nous. Comme l'enfant de Naïn, ce petit garçon qui est décédé auprès de sa mère, et la maman est en pleurs parce qu'elle a perdu son mari elle-même, et elle va enterrer son fils, et sur le chemin, elle rencontre Jésus, et Jésus va parler à cet enfant qui est comme le peuple d'Israël en Égypte, qui meurt, et l'enfant va émerger à travers les larmes de sa mère, à travers le chagrin de sa mère. Cet enfant va se relever, et il va ressusciter, et il va parler, et une petite parole magnifique, Jésus va le rendre à sa mère, comme s'il n'était plus à sa mère, mais il va le rendre à sa mère pour qu'elle le nourrisse, qu'elle le mette à l'école demain matin, et qu'elle en prenne soin. Ça, ce sont des épiphanies, des apparitions, des manifestations. Mais, évidemment, la plus grande épiphanie, c'est Jésus. La plus grande manifestation de Dieu, c'est Jésus. Jésus manifesté en homme, dans le sein de Marie. Jésus disait, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai vu chez mon Père. » Il manifeste tout ce que le Père est. Il disait, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, en voyant Jésus, même dans ses gestes les plus simples, on dit, « Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la manifestation. C'est l'épiphanie de Dieu. » Quand Jésus va entrer dans une maison en larmes, en chagrin, en pleurs, avec un peu de bruit, un petit peu de trompette, c'est la maison de Jaïrus. Il y avait les larmes, il y avait l'exubérance, un petit peu exagérée. La petite fille de Jaïrus venait de mourir. Et Jésus lui prend la main. Et Jésus la fait lever avec ce mot que nous connaissons, qui n'est pas de notre langue, « Talita kumi ». Ça veut dire « Hop, jeune fille, debout, lève-toi, va à l'école. Jeune fille, lève-toi. » Alors, quand je vois Jésus comme ça, je dis, voilà comment est Dieu. Il est penché sur ses plus belles créations. Et les plus belles créations, ce ne sont pas les cailloux qui tournent dans le ciel, les étoiles. Les plus belles créations, c'est l'être humain. C'est l'enfant, cette jeune fille, vous. Et puis, le Seigneur, avec ses plus belles créations, il a aussi affaire à ses plus faibles créations. Parce qu'on est très faible, on n'est pas capable de comprendre et d'avancer sans une aide extérieure. Et là, je vois Dieu. Dieu qui se penche sur la beauté de sa création, l'enfant, et Dieu qui relève ce qu'on ne peut pas faire à un enfant qui est décédé. Dieu nous montre, à travers Jésus, ses qualités. Et quand j'entends Jésus parler, quand il disait « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé », ce Dieu magnifique qui est venu sur terre en Jésus-Christ, il nous fait une déclaration d'amour. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. C'est-à-dire, sans mesure, vous ne pouvez pas comprendre à quel point je suis aimé par mon Père et je vous aime de la même façon. Eh bien, ce Dieu qui a créé l'univers, voilà qu'il nous déclare son amour. On est en sécurité. Dieu a voulu vivre, venir, se montrer, se manifester, nous ouvrir son cœur pour qu'on puisse être rassurés pour toujours. Et il murmure dans l'obscur tombeau de Pâques, il murmure à cette femme qui pleure et qui ne voit plus rien et qui n'entend plus rien. Vous savez, quand on a des chagrins, on n'entend plus, on ne voit plus, on a que des larmes et puis on a des sanglots. Et Jésus va dire silencieusement, il ne crie pas Jésus, il n'élève pas la voix, mais il va dire dans le cœur de cette femme, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, il va dire, pourquoi pleures-tu, femme? Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Voilà l'apparition de Dieu. Voilà comment Dieu nous apparaît, pas comme un dictateur, un tyran qui est absolument indifférent à tout ce qui se passe en Iran, en France, partout. Non, Dieu s'arrête, il nous voit. Il se pose, il nous parle, il se penche. Qui cherches-tu? Que veux-tu? Et il va tirer cette femme doucement de son chagrin et il va lui montrer sa personnalité. Et elle dira dans son langage, « Rabouni », ça veut dire « mon maître, mon maître ». Elle reconnaît Jésus. Épiphanie, Dieu s'est montré. Dans son épiphanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu sur la terre, le Christ, Jésus nous a montré un côté de lui que je ne connaissais pas, que vous ne connaissez pas. Un côté qui est resté la face cachée de Jésus, la face cachée de Dieu. On ne connaît pas ce côté parce qu'on n'a pas su le lire. On ne sait pas lire. On n'a pas bien lu la Bible. Et pourtant, c'est écrit depuis longtemps. Ce côté caché qu'il nous a montré dans l'Épiphanie, c'est sa faiblesse, c'est son humilité, c'est sa souffrance devant nos souffrances, c'est son humiliation, c'est son abaissement. Et ça, c'est encore plus étonnant que sa force. Sa force, on comprend, elle fait tout l'univers, mais qu'il soit abaissé à ce point et qu'il soit faible et fragile à ce point sur la croix, ça, on ne comprend pas. Ce Dieu-là nous étonne. La manifestation complète de Dieu, l'épiphanie complète de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ en croix. Là, il apparaît comme nous ne l'avons jamais imaginé. Et l'apôtre Pierre était pas d'accord. « Seigneur, jamais de la vie, tu n'iras pas mourir à la croix, ça n'a pas de sens. » Et pourtant, c'est un des côtés de Dieu qu'il nous faut connaître, nous, pour être sauvés dans notre vie. Vous connaissez l'histoire du quatrième mage? Je ne sais pas si vous en avez trois, ou quatre, ou quinze, ou vingt. Le quatrième mage. C'est un mage un petit peu distrait, et il paraît qu'il avait oublié de prendre le cadeau pour Jésus. Regardez un peu. C'est une histoire, c'est un petit conte, mais qui est intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Il a oublié, il est allé le rechercher, puis en cours de route, il a rencontré des gens qui avaient besoin, il les a aidés, mais le temps passe. Il est arrivé en retard à Bethléem. Il est arrivé, tout était fini. C'était fini, il n'y avait plus personne. Il est arrivé, il a dit, mais il est où l'enfant qui vient de naître? Oh, mais il y a 33 ans que c'est fini. Et il est allé à Jérusalem et il a vu Jésus en croix. Et il a vu là, ou plutôt je vous pose la question, est-ce qu'il a raté l'épiphanie? Est-ce qu'il est passé à côté? Ou est-ce que, non, pour moi, il a été dans l'épiphanie, il a vu la suite de l'histoire, il a vu tout ce côté caché de Jésus qui est son amour dévoilé dans la mort de la croix. Il a vu celui dont les prophètes, c'est pour ça que nous ne savons pas bien lire, les épiphanies commencent avec la Bible, il a vu celui dont les prophètes appellent le serviteur souffrant, Jésus en croix. Il a vu celui que le psaume 22 appelle le mépriser, le rejeter, l'humilier. Mais on parle de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui, on ne parle pas d'un voleur, on parle de Dieu. Il a vu ce Dieu devenir, je prends les paroles du Christ lui-même, je préfère, comme un ver de terre. Il a vu ça. Et je pense que l'épiphanie, la manifestation de Dieu envers nous, c'est tout petit au départ, c'est terrible au milieu et ça finira magnifiquement à la fin. Et c'est tout ça, Dieu. Alors, je vais conclure en vous disant, je vous parle à vous maintenant, en vous souhaitant les meilleurs vœux possibles. Je pense que la rencontre avec Jésus, c'est une épiphanie. La rencontre avec Dieu, c'est Dieu qui vient habiter notre cœur. C'est Jésus en nous. Et Jésus disait, « Si quelqu'un croit en moi, je me ferai connaître à lui. » Il se montre. « Je me ferai connaître à lui. J'habiterai chez lui. Je souperai avec lui. » Épiphanie, il se montre. Et quand on se convertit, quand on se tourne, quand on revient vers Dieu, eh bien, je crois que ça, c'est la découverte d'un Dieu qui se montre. Je vous le souhaite. Petite anecdote encore, vraie. Les mages, quand ils sont partis voir l'enfant à Bethléem, eh bien, ils ne sont pas revenus par le même chemin. Ils ont dit, on ne va pas retourner vers Hérode, qui nous a dit, revenez, vous me donnerez des petites nouvelles sur le petit garçon, revenez. Ils ne sont pas revenus, ils ont pris un autre chemin. Eh bien, quand on découvre le Christ, son épiphanie, son apparition en nous, on ne reprend plus le même chemin. On prend un chemin droit, un chemin juste, un chemin avec Dieu, un chemin qui marche vers sa lumière, un chemin de paix, un chemin nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous souhaite de passer une belle année dans la découverte de Dieu. Je vous souhaite de vivre des rencontres avec le Seigneur, des épiphanies, d'en vivre beaucoup, parce que je pense que, voyez-vous, je vous dis, je crois qu'on a fini l'histoire, l'histoire elle est terminée, il est venu, il est reparti, il va revenir, mais je crois que dans notre vie, il y a des petits miracles tous les jours, des petites choses qui nous arrivent, qui nous font du plaisir, il y a des petits signes tous les jours, des petits cailloux blancs que Dieu met sur le chemin pour nous dire, prends courage. C'est une petite chose que les autres ne voient pas. Il n'y a que nous qui les voyons. Ces petits cordages d'amour avec lesquels il nous tire plus haut, il nous tire à lui. Ça, c'est l'épiphanie. Il se montre tout doucement. Je vous souhaite la meilleure année possible pour vous et pour votre famille et pour vos enfants. Amen. Je prie avec vous. Merci parce que tu es sorti de toi-même et tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu nous chercher, nous étions dans la boue de l'Égypte. Nous étions loin et tu nous as rapprochés. Tu nous avais choisis dès avant la création du monde pour que nous soyons des enfants adoptés, des enfants aimés. Des enfants qui font partie de ta maisonnée, de ta famille. Et nous nous aimons, et nous aimons cette maison, parce que cette maison, elle s'appelle l'amour de Dieu. Garde-nous, Seigneur, dans la traversée de la vie, et apparais-nous quand tout est noir et triste. Apparais-nous, Seigneur, pour que nous sachions que quel que soit le chemin, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Amen. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour les malades, les souffrants, ceux qui ont du mal. La vie, c'est difficile. C'est un magnifique parcours parce que vivre, c'est le sommet de la vie. C'est vivre. Et dans cette vie, on se bat. On se déchire, on pleure, on casse, on recoue. On triche, on répare. On fait du mal, on fait du bien. Et au-dessus de nous, il y a un Dieu qui ne condamne pas, qui nous aime. Alors, je vais vous inviter en ce premier jour. On dit premier jour, aujourd'hui c'est le 1er janvier pour nous, hein. Premier culte, première évangélisation. Je vais vous inviter à vous approcher. Et puis je vais prier pour vous. Je vais prier pour que le Seigneur qui s'est manifesté aux petits-enfants, à la fille de Jaïrus, au jeune homme de Naïn, à Moïse, aux grands, aux petits, aux moyens, que Dieu vous apparaisse. Vous ne le verrez pas, hein. Vous saurez qu'il est passé. Il laisse des traces. Il laisse un parfum derrière lui. Il laisse quelque chose qui nous remplit, de certitude, de bonheur. On sait en qui on croit. Approchez-vous si vous voulez, et je prie pour vous, pour que Dieu vous donne des jours et des mois plus faciles. Un jeune homme.